RCF.
Bonjour. Je suis Thierry Lyonnais, grand reporter à RCF, et la marche est depuis des années l'activité que je préfère. Alors je suis allé tendre mon micro à des marcheurs, hommes, femmes, célèbres ou moins connus, qui eux aussi ont cette même passion pour la marche. Marche et rêve, un podcast pour tous ceux que l'envie de liberté démange. Jean-Christophe Ruffin, c'est votre livre « Immortelle randonnée, Compostelle malgré moi » publié chez Guérin, qui a fait connaître au grand public votre amour de la marche. Vous êtes médecin, écrivain, académicien. Et qu'est-ce qui vous a mis en chemin, Jean-Christophe Ruffin, en 2011 pour parcourir ces 850 kilomètres sur l'un des itinéraires des chemins de Compostelle?
C'était dans des conditions très particulières que j'ai engagé cette marche. Je rentrais d'une expérience diplomatique assez lourde, puisque j'avais été ambassadeur de France dans un pays passionnant mais difficile, compliqué, disons, au Sénégal. Et quand je suis rentré en France, il m'a fallu reprendre une vie, j'allais dire, normale, c'est-à-dire plus les heures de la République, tout le confort très artificiel d'ailleurs de la vie diplomatique. Et donc, finalement, tout ça pouvait apparaître comme une privation, hein, plus de cuisiniers, plus de chauffeurs.
Plus de personnes qui vous appelaient Excellence.
Voilà, exactement. Et j'ai voulu convertir cette privation, au contraire, en bonheur, c'est-à-dire la pousser à l'extrême. Et il n'y a rien de tel, à mes yeux, qu'une grande, longue marche pour vous conduire à une forme de dépouillement, parce que et vous ramener à l'essentiel, en fait. Voilà. Donc, c'était d'ailleurs pas nécessairement sur le chemin de Compostelle que je comptais marcher au départ. Je voulais, mon premier projet, ça avait été de faire la traversée des Pyrénées, vous savez, qui se fait soit par un sentier de grande randonnée, il y en a un du côté espagnol, un du côté français, soit ce qu'on appelle la grande traversée des Pyrénées par les cols et les sommets, qui est plus montagnarde, si je puis dire. Voilà. Donc j'avais ce projet, puis comme ce projet de chemin coupait les chemins de Compostelle, je m'y suis intéressé, et Compostelle porte une espèce de poids historique, de tradition, de spiritualité qui est tellement forte.
Vous avez été aimanté quelque part.
Voilà, exactement.
Aimanté, une forme d'aimantation.
Oui, tout à fait.
Vous écrivez dans votre livre que la marche, ça a été une purge intellectuelle. J'ai bien aimé cette expression. En quoi ça permet de se purger intellectuellement la marche?
Beaucoup de gens pensent que la marche était favorable à la réflexion. Ça peut être vrai sur des courtes distances. Quand vous allez, c'est le général de Gaulle qui faisait le tour de son jardin à la Boisserie et qui, là, donc il concevait ses discours. Bon, ça, c'est la marche, j'allais dire, dans dimension réduite, en petit format.
Voilà. Un peu comme les philosophes grecs qui marchaient dans leur jardin pour penser.
Etc., oui. Mais la marche prolongée, c'est-à-dire celle qui vous absorbe complètement pendant plusieurs heures de la journée, 5, 6, 7, 8 heures parfois.
Et répétée tous les jours.
Et qui tous les jours, se répète. Alors là, c'est tout à fait différent parce qu'elle produit un effet vraiment contraire, c'est-à-dire qu'elle élimine toute la pensée, parasite ou pas, j'en sais rien, mais enfin, en tout cas, construite, celle qu'on veut poursuivre. Vous savez, on tient une idée, on veut la poursuivre. Là, la marche, finalement, élimine ça parce qu'elle vide, en quelque sorte, le cerveau. Et alors, après, il ne se passe pas rien. On n'est pas décérébré pour autant. Mais la réflexion est différente parce que, d'abord, elle est beaucoup plus nourrie des perceptions qu'on a autour de soi. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de porosité, de perméabilité à l'environnement qui fait que c'est cet environnement, c'est le fait qu'on soit dans une plaine ou dans une montagne, qu'on soit en train de monter ou de descendre, qu'on soit dans le froid ou dans le chaud, sous la pluie ou au soleil, c'est ça qui va finalement, en quelque sorte, imprégner l'esprit et faire naître une rêverie qui est singulière.
Ça veut dire qu'on développe une perception plus fine de notre environnement quand on marche,
oui, c'est-à-dire
lorsqu'on est dans notre vie quotidienne.
Oui, parce que dans la vie quotidienne, on est toujours protégé par des bornes, par alors ça peut être une carrosserie de voiture, ça peut être les murs d'une maison, ça peut être justement l'enceinte d'un jardin, si vous voulez. Alors que
ou des protections sociales.
Et les protections sociales.
Une image sociale que l'on veut donner.
Oui, parce
aussi.
Que de toute façon, quand vous êtes dans un milieu clos, vous pouvez déployer, et vous devez d'une certaine manière déployer un personnage, puisque c'est celui qui va en quelque sorte vous donner votre place dans ce monde social.
Hein. Et donc, dans cette comédie humaine, dirait Balzac.
Comédie humaine, donc vous avez tous les attributs, tout l'attirail d'un personnage qu'on appelle une personnalité, mais enfin c'est plutôt un personnage. Et alors là, à l'extrême, évidemment, la vie diplomatique, c'est ça, puissance 10, puisque vous incarnez non seulement qui vous êtes, mais un pays, etc. Donc moi, j'avais vraiment...
Vous étiez en représentation en permanence,
tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, tout à coup, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que... Pas tout de suite d'ailleurs, mais au fil des jours qui passent, ces barrières-là tombent. Et il y a donc une sorte de vulnérabilité, mais dans le sens positif, si vous voulez, dans le sens où ce qui se déroule autour de vous peut entrer en vous d'une certaine façon. Et de la même façon, vous-même, vous pouvez entrer en communication, voire en communion avec les gens que vous rencontrez, de façon beaucoup plus simple. Parce que d'abord, ils ne vous demandent pas qui vous êtes. Donc, il n'y a pas, si vous voulez, cette espèce de barrière de...
Voilà, qu'est-ce que tu fais dans la
oui,
vie
bonjour docteur, ouais, bonjour monsieur l'ambassadeur, bonjour monsieur le directeur. Donc, ça c'est fini. Et il reste quoi? Il reste... ce que vous êtes, ce que vous avez fait, tout ça disparaît.
Et le fait de souffrir de la même manière.
Voilà.
C'est important, ça.
C'est-à-dire qu'il reste une forme de communion dans ce qu'il faut bien appeler quand même une épreuve, parce que c'est vrai que ces marches longues, ces marches...
Un mois et demi, deux mois.
Ça, ouais. Oui. Elles déracinent, si vous voulez, les personnes, elles les placent dans une forme de vulnérabilité. C'est quand même une épreuve, quoi. Qu'on le veuille ou non, même si c'est vécu agréablement. C'est une épreuve de ne plus avoir ses références, de ne plus avoir ses protections, de ne plus avoir tous ces faux-semblants qui nous entourent. Et donc, on partage ça avec les autres. Et du coup, c'est vraiment qui vous êtes, de chaque côté, qui est là, c'est tout. Rien d'autre.
Marche et rêve, un podcast sur les bienfaits de la marche et pour tous ceux que l'envie de liberté démange.
Jean-Christophe Ruffin, certains vont se demander finalement à quoi ça sert cette démarche-là, cette démarche d'humilité, où vous vous mettez en situation de fragilité, en situation d'une certaine manière de pauvreté. Vous sortiez des ors de la République, des honneurs, et vous vous retrouvez comme n'importe qui, votre sac sur le dos, vos chaussures, vos chaussettes qui puent au bout d'un moment, dormir dans des petits refuges pas chers ou dormir sous votre tente. À quoi ça sert de faire cette démarche-là de dépouillement et d'humilité?
Justement, je pense que ça, au sens utilitariste, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que, au bout du compte, le petit diplôme là qu'on vous remet quand vous arrivez à Compostelle, je vais dire, tout le monde s'en fiche.
C'est pas le but. C'est la Compostelle.
Non, oui, ça n'a pas. C'est un gris-gris. Mais moi, je suis assez habitué à ça parce que comme je pratique pas mal la montagne, c'est un peu comme la notion de sommet, si vous voulez. Notion de sommet, elle est finalement au fond abstraite. Combien de temps on passe sur un sommet? Vous voyez, vous avez passé des heures pour arriver sur un petit bout de quelques mètres carrés d'un truc sur lequel vous allez rester 10 minutes.
Parce qu'il fait trop froid, parce qu'il y a du vent, et puis il faut vite redescendre.
Voilà, vous allez manger un bout de saucisson et puis descendre. Bon. Donc ce sommet, il est à la fois le but, et en même temps, il n'est pas le but. Le but, c'est vraiment tout ce qui se passe pour y parvenir. Le but,
c'est
le chemin.
La même chose.
Oui, et là, c'est la même chose. Alors, c'est particulièrement vrai pour le chemin de Compostelle, parce qu'il est orienté. Ce n'est pas un chemin... Bon, certains le font dans l'autre sens. Il y a toujours des vicelards qui veulent corser la difficulté. Parce que comme il est balisé dans un seul sens, dans l'autre sens, c'est plus compliqué. Mais disons que c'est un chemin qu'on pratique... vers quelque chose, vers Compostelle.
On est orienté vers Compostelle.
Il est orienté, voilà.
Mais on est orienté
vers l'Occident.
Vers l'Occident.
Voilà. Mériter cette orientation n'est là que pour colorer, si je puis dire, le chemin. Ça n'est pas pour le couronner. C'est-à-dire qu'il ne se passe rien. En tout cas, là, je parle de mon expérience personnelle. Peut-être que certains ont une sorte de révélation en arrivant à Compostelle. Mais enfin, Compostelle est devenue tellement... j'allais dire mercantile. Enfin, les gens, ils y vont en avion, ils achètent des souvenirs.
Surtout quand on arrive à Saint-Jacques-de-Compostelle. Voilà.
Oui, c'est un peu les marchands dans le temple.
Les marchands du temple.
Oui. Donc, en fait, ça n'est, si vous voulez, à la fois, ce but est important parce qu'il vous appelle quelque part. Bon, et en même temps, ça n'est pas lui qui constitue l'essentiel. Voilà. Donc, l'essentiel, c'est le chemin. Donc, si vous reprenez votre question, ça ne sert à rien. Voilà. Mais tant mieux, parce que dans le restant de notre existence, nous ne faisons que des choses qui sont théoriquement utiles, qui servent à quelque chose. Et cette utilité mise bout à bout aboutit souvent à une impression justement d'absence de sens. C'est la plupart d'entre nous, on enchaîne des choses utiles tout au long d'une journée, et ça ne retire pas l'impression qu'on peut avoir de temps en temps, qu'on ne sait pas où on va, qu'on ne sait pas pourquoi on fait tout ça. Voilà. Alors que le chemin, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'utilité, ça c'est certain, et personne ne vous demande de faire ça, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez vous arrêter quand vous voulez. Et pourtant, il vous emplit de l'impression d'être dans l'essentiel. C'est l'antithèse de la vie courante.
Jean-Christophe Ruffin, on sait votre amour de la montagne. Vous avez publié récemment un livre où vous exprimez tout votre amour et votre lien, votre attachement avec la montagne, l'alpinisme, l'escalade. Quelle différence faites-vous entre la marche, où vous êtes dans la nature, et on y reviendra, et puis la montagne, où vous êtes aussi dans la nature, mais dans une autre approche?
Ben, je pense que dans la montagne, il y a un côté peut-être initiatique qu'il n'y a pas dans la marche. C'est-à-dire que la montagne requiert, quand je parle de la montagne, c'est l'alpinisme, une technique particulière. C'est-à-dire que arrive un moment où, au pied d'une paroi, si vous voulez, il faut convoquer un savoir et un matériel aussi. C'est-à-dire qu'il y a besoin d'une corde, besoin d'un baudrier, besoin de pitons, bref, même s'ils sont en place maintenant, mais il y a besoin de mousquetons, etc. Enfin, toute chose que...
Pour maîtriser une technique.
Cette technique, elle est un peu un prolongement quand même de la vie technologique d'aujourd'hui. C'est-à-dire que ça reste un sport... organisé, avec sa dimension même commerciale, vous avez des rayons consacrés à ça, dans les magasins de sport, etc. Donc, puis c'est bref, en général. Alors, ça peut être long, il y a des gens qui pratiquent ça, je sais pas, qui font des ascensions très longues, qui vont rester 15 jours dans une paroi, bon, mais moi je parle plutôt de l'ascension qu'on va faire dans la journée.
Dans la journée, oui.
C'est, disons, une activité qui peut se comparer, je sais pas moi, au vélo, au sport automobile, au ski, enfin voilà, c'est une activité technique qui est moins coupée, si je puis dire, de notre vie quotidienne. C'en est même, d'une certaine façon, un prolongement, puisque c'est...
Alors, il faut un équipement, il faut...
Voilà, c'est ça.
Il faut de la technique, alors que... Dans la marche,
la marche, c'est vraiment une paire de chaussures, et même certains s'en passent, mais je veux dire que voilà, le dépouillement, il peut être total pratiquement. Donc, c'est pas la même chose. Mais en même temps, il y a des choses communes, et notamment les épreuves physiques liées justement à au froid, au chaud, à la faim, à la soif, etc. Il y a quelque chose de commun, c'est-à-dire que on convoque, disons, les mêmes qualités. Il faut une forme de résistance, une forme de volonté, etc. Bon, tout ça est commun. Donc il y a des points communs, mais ça n'est pas la même chose. Et alors, ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que d'un point de vue même musculaire, même physique, on a beau, par exemple, pratiquer beaucoup l'alpinisme, quand on pratique ces marches longues comme ça, on a mal partout. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ça convoque d'autres muscles, je ne sais pas, d'autres mouvements, enfin, dont on n'a pas l'habitude.
Donc c'est un autre rapport au corps aussi.
C'est un autre rapport au corps. Je pense que, si vous voulez, la marche prolongée comme ça, dans des conditions d'autonomie et un petit peu d'isolement, en fait, ça ne se compare au fond à rien. Voilà. Ça peut emprunter des traits à telle ou telle activité, mais ce dépouillement, je crois qu'on ne le trouve nulle part ailleurs.
Thank you.
Christophe Ruffin, j'aimerais qu'on parle du rapport au temps dans la marche, et notamment dans la marche longue. Hein. Je ne parle pas de la marche sur la journée, je parle sur, comme vous l'avez pratiqué, sur un mois, deux mois pour certains. Vous écrivez dans votre livre « Le chemin est une alchimie du temps sur l'âme ». Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Ben parce qu'en fait, le temps vous modifie profondément. C'est-à-dire que quand vous commencez à marcher, vous avez des étapes à franchir. La première étant une étape du corps, simplement, pour habituer votre corps à ça. Parce qu'il y a tout un tas de petits inconvénients, les ampoules et autres, crampes, machin, ce que vous voulez.
Mal aux épaules.
Voilà, il faut d'abord, le temps façonne d'abord votre corps. Mais après, au-delà de façonner votre corps, il s'attaque, si j'ose dire, à votre âme, à votre esprit profondément. Et donc, il y a une sorte de... D'ailleurs, les deux sont liés, parce que ce que le temps fait sur le corps, c'est justement de le faire disparaître, c'est-à-dire de vous permettre de l'utiliser sans vous en préoccuper. Parce qu'au début, vous êtes quand même très centré sur tous les petits malheurs qui vous arrivent, les petits trucs qui frottent, qui font mal, etc. Donc le corps crie, en quelque sorte. Il est là et il vous empêche de vous entendre vous-même, enfin, profondément. Donc la première action du temps, c'est de faire disparaître ces soucis du corps. On est habitué à la marche, on est habitué. Et quand on a ce silence du corps, si je puis dire, il y a d'autres choses qui viennent et qui probablement, en effet, travaillent sur l'esprit et travaillent sur l'âme, au sens où je pense que c'est, au bout d'un certain temps, une manière d'atteindre une forme de spiritualité qui n'est pas, à mes yeux, une révélation. C'est-à-dire que c'est pas... Parce que j'avais écrit dans le livre, c'est que le chemin de Compostelle, c'est pas le chemin de Damas. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous n'êtes pas forcément foudroyé par une sorte de
révélation
ou de vérité qui certitude. S'impose à vous. Ça peut arriver, certainement, mais en tout cas, pour moi, ça n'est pas l'essence de cette activité, de ce chemin.
Mais pourtant, vous parlerez de spiritualité quand
oui,
même.
Oui, parce qu'il y a un dépouillement qui s'est fait, qui vous rend vulnérable, mais dans le bon sens du terme, à ce qui s'éveille en vous et autour de vous. Alors autour de vous, on en a parlé, mais en vous aussi, c'est-à-dire qu'il y a des moments d'émotions dans lesquels vous êtes capable d'entendre des voix intérieures. C'est un peu, il ne s'agit pas de le faire au sens, de dire au sens strict, mais oui, une sorte de d'écouter ce qui se passe en vous, quoi. Ce qui se passe en vous, mais pas seulement intellectuellement, ce qui se passe en vous en termes d'émotions, en termes d'appel, de sensibilité. Alors, au fond, tout ça ne vous transforme pas forcément, c'est-à-dire tout dépend de vos croyances, tout dépend de vos croyances religieuses, que vous avez la foi ou pas, etc., mais ça accroît la puissance de ça. C'est-à-dire que si vous êtes croyant, vous l'êtes encore plus. Si vous cherchez quelque chose, vous êtes encore plus en quête de ça. Je pense que voilà.
D'ailleurs, on a l'expression « être en chemin », souvent, spirituellement. C'est une quête, c'est un chemin.
Exactement. Ouais. C'est-à-dire que ça, c'est comme une peau à vif, si vous voulez, qui perçoit le toucher plus fort qu'une peau normale, si j'ose dire. C'est une espèce de... Vous êtes un peu à vif, quoi. Voilà.
Et vous pensez que par la marche, on le vit d'une manière particulière?
Oui, parce que je pense que la marche est longtemps, marcher longtemps, c'est un petit peu le seul moyen, à mon sens, de se priver, justement, de tous les bruits parasites, si je puis dire, qui encombrent l'esprit, qui encombrent la vie, tout simplement. Il y a une sorte de paix, voilà, si on devait trouver le mot, c'est une paix intérieure, une paix extérieure, qui est liée au fait qu'on a laissé derrière soi toutes les perturbations de la vie, on les a oubliées, on ne sait plus, les impôts, les machins, on s'en fout. Et puis, il y a une paix intérieure, au sens où on est... il y a cette espèce de liberté... Et de temps qui vous est donné d'écouter votre propre conscience.
Mais quand on marche, on en fait tous l'expérience, le mental est toujours là. Les pensées sont toujours là.
Ben...
Donc est-ce qu'on n'est pas encore avec une acuité plus grande sur tout ce mental qui s'agite en nous?
Non,
Ou au contraire, est-ce qu'il s'apaise?
Oui, moi je trouve qu'il s'apaise. Je pense qu'au début, moi je me souviens, les premières semaines, les premiers jours, je m'accrochais à des pensées. Je me disais, ça, tiens, voilà, un truc auquel je voulais penser depuis longtemps, là, je le tiens. Voilà, puis tout ça, au bout d'un moment, au fond, on oublie, on s'en éloigne, et puis les choses... Non, je crois que tout ce mouvement parasite, finalement, de la pensée qu'on peut avoir, je ne dis pas qu'elle disparaît, mais en tout cas, elle s'apaise. Oui.
Jean-Christophe Ruffin, le fait de marcher seul, parce que vous avez marché une grande partie du temps seul, une petite partie avec votre épouse à l'époque...
Oui.
C'est important de marcher seul. Ça apporte quelque chose de particulier par rapport à marcher à deux, trois, quatre.
Moi, je trouve, parce que je compare ça, si vous voulez, aux classes de langue. Vous savez, quand on envoie les enfants étudier les langues à l'étranger, ou les envoyer en Angleterre ou en Espagne, bon, s'ils partent avec tous leurs copains, ils continuent de parler français. C'est-à-dire que s'ils partent tout seuls, là, ils sont bien obligés de
s'immerger.
De se plonger. Mmh. Et je pense que le fait d'être seul, si vous voulez, vous oblige quand même à une ouverture. Moi, on le voit bien sur les chemins. Hein, quand vous croisez des groupes, les gens se parlent entre eux, quoi. Ils se parlent entre eux. Ils sont beaucoup moins réceptifs. Un groupe, je ne dis pas que c'est hostile, mais aborder un groupe, par exemple, quand vous êtes seul, ce n'est pas simple parce qu'ils sont entre eux, quoi. Mmh. Ils sont entre eux, ils sont dans leur petite bulle. Et,
donc, moins de possibilités de rencontres.
Voilà. Je pense que, justement, ce bavardage, si vous voulez, qui est sympathique, hein, j'aime bien ça aussi. Mais ce bavardage, il prend la place du silence, en fait. Hein, en tout cas, l'expérience que j'avais faite autour de ça m'avait montré que c'était pas du tout pareil quand on est accompagné ou quand on accompagne quelqu'un que quand on est seul. Vraiment, c'est très différent.
Marché Rêve, un podcast RCF. Proposé par Thierry Lyonnais.
Jean-Christophe Ruffin, on a parlé un tout petit peu de la relation avec l'environnement, avec la nature, quand on marche. J'aimerais qu'on développe cet aspect-là, cet aspect perception de l'environnement. On a l'impression que dans votre livre, ça a été très important, ça. Vous dites, la marche met le moi en résonance avec la nature.
Oui, parce que alors la nature ou la ville, parce que ces chemins... sont à l'image de la vie, c'est-à-dire qu'ils ne passent pas que dans des endroits magnifiques, il y a aussi des faux plats, des banlieues industrielles, enfin il y a de tout. Hein. Et justement, c'est ça qui fait l'intérêt, c'est-à-dire quand on montre des livres ou des films souvent sur ces chemins, notamment Chemin de Compostelle, on ne montre que, la plupart du temps, que les beaux paysages, etc. Mais non, c'est pas ça.
C'est pas ça la vie.
C'est du tout la vie. Ouais. C'est-à-dire qu'on est obligé parfois de suivre des tuyaux de gazoduc ou je sais pas quoi pendant des kilomètres. Bon.
Et là, il y a la monotonie, non, qui s'installe.
La monotonie. Il y a aussi, ça vous fait voir la ville autrement, parce que voir la ville à pied. C'est très différent, hein. Vous êtes avec votre sac à dos, vous êtes un peu une sorte de zombie qui a débarqué là et vous voyez la ville tout à fait autrement. Et quand parfois vous êtes confronté à un très beau paysage, ça arrive tout d'un coup au détour d'un chemin, vous avez un panorama magnifique sur des rochers, la mer, etc. Ben vous les sentez encore plus intensément, c'est-à-dire que si vous voulez, c'est pas, vous n'êtes pas saturé de ça, vous n'êtes pas saturé de cette beauté, etc. Vous la recherchez et vous l'éprouvez. Donc finalement, l'environnement, vous le vivez vraiment tout le temps et dans tous les sens. Par exemple, il y a le chemin à un moment donné dans Bilbao, à travers la ville, traverse des banlieues qui sont assez moches, etc. Bon, ben, ça fait partie du chemin. Et vous les percevez alors comme tels, quoi, profondément.
Alors ça, c'est l'aspect, je dirais, lien avec la civilisation. Mais quand on est immergé dans la nature, quel lien cela procure pour le marcheur d'être, je dirais, en relation différemment de sa vie quotidienne en étant immergé dans la nature ?
Je sais pas, oui, je...
Parce que dans votre livre, on a l'impression que c'est important ce lien avec la nature. À un moment, vous dites même que Compostelle est un pèlerinage bouddhiste.
Oui, alors ça c'est autre chose, c'est-à-dire que c'était au sens où, quand je disais bouddhiste, c'était pour ne pas dire qu'il véhicule une foi positive ou une norme religieuse. Je pense qu'il vous prépare à une rencontre spirituelle, mais qui peut être dans des sens très différents. Il y a des gens sur le chemin, on n'est pas que des chrétiens, vous avez des musulmans, des juifs, des bouddhistes, de tout.
Hein, puis beaucoup de chercheurs de sens. Hein.
Et beaucoup de chercheurs, absolument. Donc, quand je dis qu'il est bouddhiste, c'est qu'il... Il appartient, disons, à cette catégorie d'ascèse qui rend plus intense l'émotion spirituelle.
Oui, mais vous en avez parlé aussi en lien avec la nature.
Alors, avec la nature, ben ça, c'est surtout parce qu'il y a cette dimension de peu, où au fond, on n'a plus besoin de grand-chose, on cherche moins de, si vous voulez, le confort, la notion de plaisir ou de confort se simplifie. C'est-à-dire qu'une fontaine, quand vous avez soif, c'est un confort extraordinaire. Et vous n'avez pas besoin d'un cocktail compliqué. Je veux dire, il y a une sorte de retour à des valeurs très simples. Non, ce qui me gêne dans votre question, c'est la notion de nature. Parce que, au fond, je pense que, en particulier sur le chemin de Compostelle, le contact avec la vraie, on pourrait dire nature sauvage, est assez réduit, en fait. Ce qu'on voit surtout, c'est une nature très humaine.
Travaillée par l'homme.
Travaillée, c'est des champs, ce sont des villes, ce sont des routes, etc. Donc, si vous voulez, c'est pas vraiment la nature, c'est plutôt... Enfin, je dirais que c'est plutôt le marcheur qui représente la nature, en quelque sorte, par son dépouillement. Et qui traverse la civilisation, ce qu'on appelle comme ça, en étant un peu comme l'animal sauvage qui traverse une autoroute, si vous voulez, et qui se rend bien compte qu'il est plus très bon chez lui. Vous voyez, c'est-à-dire que la nature est en vous, en quelque sorte, si vous en faites partie, mais autour de vous, c'est plutôt l'épreuve de du contact avec la civilisation, ce qu'elle a de violent, ce qu'elle a ce qu'elle transforme du monde, qui est frappant.
Quand on est frôlé par des camions qu'on marche le long de la route, on imagine bien ce que vous dites. Là.
Voilà, c'est pas la nature. Enfin, la nature, c'est vous. Vous vous sentez un peu comme un lapin qui est pris dans les phares, quoi. Et vraiment, c'est vrai qu'on revient peut-être à une forme de vie naturelle, mais environnée de façon très hostile parfois par la civilisation.
Jean-Christophe Ruffin, qu'est-ce que la marche sur un chemin de pèlerinage comme celui que vous avez fait Saint-Jacques-de-Compostelle a de particulier par rapport à la marche sur des GR, ces chemins de grande randonnée qu'on a à travers toute la France et qui ne sont pas des chemins de pèlerinage?
Ils sont très intéressants aussi. Simplement, le GR, si vous voulez, vous pouvez l'emprunter sur 200 mètres, vous pouvez l'emprunter sur 200 km, c'est différent. Les GR, c'est une invention merveilleuse, mais si on veut les prendre comme une sorte d'équivalent de ce que peut être Compostelle, il faut les faire dans leur globalité, c'est-à-dire, par exemple, la traversée de la Corse, la traversée des Alpes, la traversée des Pyrénées, c'est-à-dire prendre cette dimension de la marche, c'est-à-dire un pied devant l'autre, mais avec un objectif très vaste. Parce que c'est ça qui restitue cette notion d'orientation. C'est-à-dire que voilà, vous êtes, par exemple, dans le golfe de Gascogne, vous êtes à Hendaye, et vous allez de l'autre côté des Pyrénées, et vous traversez. Et là, ça restitue un but, une orientation. Même si ce but, au fond, n'est rien, parce que finalement, vous êtes à Collioure, vous n'êtes pas plus avancé, mais ça vous oriente vers ça. Donc, les deux sont comparables. Mais ce qui n'est pas comparable à Compostelle, si vous voulez, ce qui rend Compostelle incomparable, c'est son poids historique. C'est-à-dire qu'il a une histoire, ce chemin. Et il a une histoire européenne, une histoire vraiment profonde. C'est-à-dire que, dont beaucoup de monuments témoignent tout au long du chemin.
Et on le recense, là, quand on marche, de mettre ses pas, je veux dire plutôt, bien sûr, le patrimoine, il est là autour de nous, on le voit, il est vraiment palpable, visible. Mais est-ce qu'on perçoit qu'on met ses pas dans les pas de milliers, de centaines de milliers d'hommes, de femmes qui ont fait ce chemin avant vous?
Oui, alors, il y a des controverses historiques là-dessus. Il y a certains historiens qui disent qu'il n'y avait pas tant de monde que ça sur les chemins au Moyen-Âge, par exemple. J'en sais rien, personnellement. Ce qui est certain, c'est qu'on sent bien que ce chemin a été tracé, non pas avec un pot de peinture rouge et blanc au XXe siècle, si vous voulez, comme les GR, mais qu'il a été tracé par une sorte de tensions historiques. Si je prends l'exemple de ce qu'on appelle le Primitivo, qui va d'Oviedo à Compostelle, qui est le plus ancien partie du chemin, c'est le chemin qu'a fait le roi des Asturies pour aller voir ce dont il avait entendu parler, c'est-à-dire ces reliques qu'on aurait trouvées. C'était le bruit qui courait à Compostelle. Bon, ben, quand vous faites ce chemin-là, effectivement, vous avez le sentiment, en effet, de reproduire un événement historique, c'est-à-dire d'être dans les pas des premiers et des suivants qui ont parcouru ce tronçon, non pas en allant le nez au vent, mais parce qu'ils étaient mus par quelque chose de très puissant à l'époque, qui était cet espoir, en fait, que quelque chose avait pu renaître à cet endroit-là. Puisqu'il ne faut pas oublier que tout ça se passait pendant la conquête musulmane, etc., que tout ça s'inscrivait dans une histoire locale très, très forte et très dramatique.
Jean-Christophe Ruffin, on entend parfois dans la bouche de marcheurs cette expression « la marche permet de faire le point sur sa vie ». Beaucoup de gens, d'ailleurs, partent faire des grandes marches à la retraite parce qu'il faut du temps pour faire ces longs chemins. Et ils disent « moi, je pars pour faire le point sur ma vie ». C'est une réalité, on fait le point sur sa vie quand on marche. Vous avez fait le point un peu sur votre vie en marchant pendant un mois ?
Pas tellement. Moi, je trouve que ça... Enfin, tu vois, il y a une grande différence entre ce qu'on prévoit de faire et ce qu'on fait. C'est-à-dire que, en effet, en général, on prévoit de faire ça en se disant « je vais résoudre tel ou tel problème, je vais enfin connaître la vérité de ce que je veux, de ce que j'attends, de ce que j'espère, de ce qui m'attend peut-être dans la vie, etc. » Moi, je trouve que ça, c'est, disons, ce qu'on met dans son pactage. Et puis, très vite, on est conduit à autre chose. Alors, est-ce que c'est un point sur la vie ? J'en sais rien. De façon, je pense que pour faire un point sur sa vie, le mieux, c'est de l'oublier. C'est-à-dire d'oublier un peu toutes les... c'est ça qu'on entend souvent en disant « je vais faire le point ». Ça veut dire « je vais résoudre quelques contradictions, quelques problèmes, enfin trouver... »
Il y a encore une dimension utilitaire, finalement, de la marche.
Utilitaire, exactement. Ouais. Alors que Compostelle vous fait faire un point beaucoup plus vu de plus haut, si vous voulez, hein, vu comme d'un satellite, si vous voulez, vous oubliez. Donc vous ne allez pas forcément résoudre les petits problèmes de votre vie, vous n'allez pas forcément savoir s'il faut que vous soyez locataire ou propriétaire, campagnard ou citadin, c'est pas forcément ça, mais ça va vous conduire à une mise en question plus profonde et peut-être plus abstraite d'ailleurs, moins communicable en fait, parce que c'est très difficile. Si vous voulez, les gens ont souvent un discours très très précis sur ce chemin avant de partir, et assez flou en rentrant, parce qu'au fond, ce qu'ils ont vécu n'est pas facile à communiquer, et les transformations qu'ils ont subies, eh bien, elles sont très difficiles à expliciter, parce que justement, elles ne sont pas de l'ordre du pratique, quoi.
C'est pour ça que vous n'aviez pas eu envie d'écrire au début.
Non, moi je ne voulais pas du tout écrire. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'ai écrit un livre qui était très descriptif et assez peu personnel au sens où... Voilà, j'ai pas
introspectif, parlé. On va dire.
Peu introspectif. Ouais. Voilà.
Alors moi, je vais vous poser une question un peu introspective pour finir, Jean-Christophe Ruffin. Qu'est-ce que vous avez retiré d'essentiel dans cette marche que vous avez vécue, dans une situation particulière, dans un moment de votre vie particulier, mais qui vous habite encore aujourd'hui ?
C'est un peu comme le vaccin anti-Covid ou autre, mais je pense qu'il faut des rappels périodiquement. Alors est-ce que moi je dissocierais, disons, ce que j'ai pu vivre sur le moment et puis ce qui reste aujourd'hui, parce que ça fait quand même un moment et je pense qu'il faudrait que je me fasse une piqûre de rappel. Mais sur le moment, ça a été une sorte de... non pas de révélation, mais en tout cas de retour aux sources, c'est-à-dire plus harmonieuse. J'avais parlé des conditions dans lesquelles j'avais fait ce chemin. Bon, j'étais en retour d'une vie très différente, très extravertie, parce qu'en représentation, etc. Et je pense que le chemin m'a aidé à entrer dans une autre phase de vie, qui effectivement dure encore aujourd'hui, même si j'ai besoin d'un piqueur de rappel, mais dans laquelle finalement j'ai largué un petit peu derrière moi toutes ces ambitions matérielles, sociales, machin, etc., pour entrer dans une phase assez créative, assez voilà, ça m'a permis de faire cette transition profondément,
de recentrer davantage de sur ce que vous aimez fondamentalement.
Exactement. Et c'est ce qui me constitue plus, alors qui n'est pas figé d'ailleurs, parce que écrire des livres, ça veut dire à chaque fois se remettre en question, etc. Il ne s'agit pas de ça veut pas dire s'arrêter, ça veut dire retourner vers l'essentiel pour soi. Alors l'essentiel pour chacun est différent.
Mais l'essentiel pour vous.
Pour moi, c'était justement cette forme de créativité et de liberté intérieure qui me permet d'accueillir justement ce qu'on appelle l'inspiration, ce qui ne veut pas dire grand-chose, mais en tout cas qui permet de garder cette créativité.
Merci beaucoup Jean-Christophe Ruffin, je vous souhaite une piqûre de rappel bientôt. Bonne marche dans ce cas-là.
Merci, merci beaucoup.
Vous venez d'écouter Marche et rêve, un podcast produit par RCF. Pour découvrir d'autres parcours de marcheurs, rendez-vous le mardi à 8h sur notre site rcf.fr ou sur votre plateforme de podcast préférée. N'hésitez pas à faire connaître ce podcast autour de vous en le commentant, le partageant ou en laissant des petites étoiles sur les plateformes. Et puis il y a aussi tous nos autres podcasts que je vous recommande, Souffle de vie, Les colères de l'abbé Pierre, La Fontaine et d'autres à découvrir partout, tout le temps, même en marchant. Bonne écoute et à très bientôt au détour d'un sentier ou sur les ondes.